Bonsoir et bienvenue dans BFM Grand Soir. Emmanuel Macron prend la défense des juges. Les attaques et menaces de mort contre les magistrats sont inadmissibles. C'est ce que dit aujourd'hui le président de la République. Nous recevons sur ce plateau Sacha Stropkan. Bonsoir.
Bonsoir, merci de votre invitation.
Vous êtes porte-parole du ministère de la Justice. Merci d'être avec nous. Laurent Valdiguier, bonsoir.
Bonsoir, Émilie.
Journaliste d'investigation, consultant BFM TV. Alors, la justice est aujourd'hui particulièrement violentée. C'est pour ça que c'était très important pour nous de vous entendre aujourd'hui. La présidente qui a prononcé la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison reçoit des menaces de mort depuis 72 heures. Le syndicat de la magistrature a dénoncé ces dernières heures le silence assourdissant de l'Élysée. Résultat, Emmanuel Macron réagit aujourd'hui et dénonce ces attaques et menaces de mort qu'il juge inadmissibles. Sacha Stropkan, pourquoi le président de la République a mis du temps à réagir?
Alors, deux choses. La première chose que je voudrais faire, c'est évidemment, en tant que porte-parole de la chancellerie, apporter mon soutien aux collègues qui sont menacés. C'est malheureusement de plus en plus le cas. On avait déjà vécu une séquence un peu similaire il y a quelques mois après le procès qui concernait Marine Le Pen. Là, c'est à nouveau le cas. Et j'en dirai un mot après, mais évidemment, c'est parfaitement inadmissible que des magistrats, dans l'exercice de leurs fonctions, comme ça serait inadmissible que si c'était des policiers, des soignants, des gendarmes, ça l'est tout autant quand c'est des magistrats qui exercent leur mission au titre de ce qui leur est alloué par la Constitution. La deuxième question, c'est évidemment la réaction du chef de l'État, du président de la République. Je pense qu'il ne faut pas essayer de trouver des polémiques là où il n'y en a pas. Le constat est que...
Alors, ce n'est pas moi qui amène la polémique, mais c'est le syndicat de la magistrature qui a dénoncé un silence assourdissant. Ce ne sont pas mes mots.
Totalement, je ne vous accusais pas, vous, d'apporter une polémique. J'ai bien conscience que certains ont une parole syndicale. Moi, ma réponse, c'est que on peut se féliciter que dans les 48 dernières heures, que ce soit le chef de l'État, dont c'est le rôle, au terme de la Constitution, de garantir l'indépendance de la justice, le garde des Sceaux, mais aussi un certain nombre de hauts magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature, le premier président de la Cour d'appel de Paris, l'ensemble des acteurs institutionnels, si je puis dire, font bloc derrière les collègues, pas tant sur le fond de la décision, parce que ça, c'est pas ni mon rôle ni leur rôle, mais par contre sur le fait que il est normal que la justice puisse se rendre de façon indépendante et de façon sereine, et que menacer ou vouloir attenter à des magistrats, c'est contraire à tout fondement démocratique le plus élémentaire.
Sur ce silence, Laurent Valdiguier, est-ce qu'on pouvait penser qu'il y avait peut-être un petit malaise du côté de l'Élysée après cette condamnation?
Peut-être. C'est vrai que ça a été un tel coup de canon. Mais avant d'aller à la polémique, est-ce que vous avez des échos de ces trois, vous les appelez des collègues, de ces trois juges, sur la façon dont ils vivent ces menaces de mort? Et puis au-delà des menaces de mort aussi peut-être, tout le monde fait parler ce fameux jugement, un peu à tort et à travers. On manque un peu de pédagogie, parce que dans ce procès bis, vous savez, il nous manque la voix judiciaire. Vous êtes là ce soir, mais on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un de l'autorité judiciaire qui vienne nous expliquer ce que vos collègues entendent, comment ils ont construit leur jugement, comment ils arrivent à ces 5 ans, pourquoi l'exécution provisoire. On aimerait bien, ça manque un peu. Vous vous souvenez de François Molins, c'est les jours d'attentats terroristes, il venait faire un peu de pédagogie judiciaire, là ça manque. Comment ils le vivent, vos trois collègues, ces attaques et ces déformations qui sont faites depuis 48 heures?
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait que il y a une décision qui a été rendue. Ça, il m'appartient pas à moi de la commenter. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'une décision de justice, par nature, peut nourrir un débat démocratique. Et ça, pour le coup, ça me paraît plutôt sain. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a un certain nombre d'acteurs politiques, quels qu'ils soient, qui s'interrogent sur la législation en vigueur, par définition, c'est leur rôle, par exemple, comme législateur, de s'interroger sur la vie ou est-ce qu'une loi est toujours adaptée? Et ça, pour le coup, c'est la vie démocratique. Il y a un deuxième sujet dans votre question, c'est les menaces à l'intégrité des magistrats. Concrètement, je suis pas sûr que ça soit lieu aujourd'hui pour dire comment vont les collègues en question. Une chose est sûre, c'est que de fait, on n'est pas préparé et on ne souhaite pas, quand on est magistrat, être menacé de mort, comme une fois de plus quand on est policier, quand on est gendarme.
Et vivre protégé, parce qu'ils sont protégés par des policiers aujourd'hui.
Effectivement. Et la troisième chose, c'est que le ministère de la Justice, depuis plusieurs mois, malheureusement, contraint face à ces situations, a mis en place un certain nombre de protocoles en lien avec le ministère de l'Intérieur pour offrir une double protection aux magistrats qui en ont besoin, une protection fonctionnelle, c'est-à-dire juridique, un accompagnement juridique, et une protection éventuellement, effectivement, au sens physique du terme, c'est-à-dire une protection policière.
Alors, vous dites que de nombreuses personnalités politiques de premier plan se sont interrogées sur cette condamnation. En revanche, il y en a aussi beaucoup qui se sont insurgés, qui ont parlé d'injustice, de complot. Est-ce que c'est inquiétant pour notre état de droit qu'elle se permette des attaques aussi virulentes contre la justice ?
Une fois de plus, mon rôle à moi est pas de commenter les commentaires des politiques. Moi,
ça pourrait vous inquiéter malgré tout, parce qu'il y a eu des mots très forts qui ont été employés ces derniers jours.
Je l'entends, et une fois de plus, mon rôle est pas de commenter. Moi, ce que je souhaite redire, c'est que il y a plusieurs aspects. Effectivement, une décision de justice a été rendue. Le droit de faire appel est un droit absolu, constitutionnel, même conventionnel, et que la cour d'appel est saisie, sera saisie et rendra une décision. Et il y aura lieu à ce moment-là d'en tirer les conclusions juridiques. Ensuite, il y a l'aspect débat public. Une fois de plus, moi, je prends le débat public comme il est. J'ai pas vocation à le réformer. Je pense que dans une certaine mesure, c'est sain dans une démocratie qu'une décision de justice nourrisse un certain débat et notamment
du côté. Vous trouvez que le débat est sain actuellement ?
Justement, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas à moi de commenter ce débat. Je vous dis juste que pour le coup, c'est normal et je trouve ça sain que dans un certain cadre, il y a un débat autour d'un certain nombre de dispositions législatives. Par exemple, le législateur, c'est son rôle, il dit la loi et éventuellement la loi a même vocation à changer. J'ai pas d'avis sur le fait qu'elles doivent changer ou pas. Je dis juste que c'est le rôle du législateur à un moment de dire bah, je souhaite que la loi change parce que je ne la trouve plus adaptée. Donc ce débat-là, il n'y a pas de difficulté à mon sens. C'est même le propre d'une démocratie. Après, effectivement, certains mots des uns et des autres peuvent porter une dimension un peu plus problématique ou en tout cas porter un certain nombre d'autres sujets. Mais une fois de plus, c'est pas mon rôle à moi.
Un peu de pédagogie quand même à faire. Est-ce que l'institution judiciaire aurait pas un peu de pédagogie à faire pour expliquer un jugement contre, en l'occurrence, contre un ancien président?
Alors, je pense que là aussi, il y a un peu deux niveaux de réponse. Je pense qu'il y a une très forte mise à niveau qui a été opérée ces dernières années. Je pense que les collègues, peu importe ce qu'on pense du fond de la décision, ont motivé leur décision. Il y a une feuille de motivation qui est à disposition et que tout à chacun peut éventuellement lire. Ensuite, de façon plus générale, pour s'extraire un peu du cas qui nous occupe ce soir, je pense que dire que l'institution judiciaire communique bien, ça serait mentir. Évidemment qu'il y a un problème de communication au sein de l'institution judiciaire. Évidemment que l'institution judiciaire ne communique pas ou communique mal très souvent et que c'est de nature à renforcer la rupture de lien avec nos concitoyens. Ça, c'est un constat objectif.
Alors, il y a un petit effort. Les procureurs, au début d'une affaire, d'un fait divers, on voit souvent des conférences de presse des procureurs qui mettent un peu à plat les choses. Mais là, est-ce qu'il manque pas justement un peu de pédagogie pour expliquer le jugement, pour donner les concepts? Pourquoi l'exécution provisoire? Pourquoi 5 ans? Pourquoi tout de suite? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelles sont les prochaines étapes? Dans quel délai vont s'organiser l'appel?
Vous
voyez, tout ça, c'est abandonné au fond aux journalistes qui ont suivi l'audience, qui sont pas très nombreux. C'est abandonné aussi aux avocats du dossier qui sont partis.
Et c'est puis, vrai que vous êtes beaucoup allé au front, Laurent Vallier.
En réalité, il manque une voix. Il manque une voie judiciaire, exactement comme François Molins avait occupé ce terrain-là pendant les attentats. Parce que pendant les attentats, c'était un tel choc pour nous tous qu'on avait besoin d'entendre quelqu'un nous dire et nous expliquer ce qui allait se passer. Et bien là, c'est un peu le même cas. Regardez, c'était quand même un coup de tonnerre depuis 3 jours. Ça va durer, puisque Nicolas Sarkozy va aller en prison. On va vivre au rythme de sa détention, du parloir de ses proches. On aurait besoin d'une voie judiciaire pour nous expliquer, pour nous donner les clés pour comprendre.
Mais je vous rejoins là-dessus et je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles l'institution dans son ensemble peut s'interroger sur la façon dont elle communique aujourd'hui, notamment par exemple le seul fait que on alloue souvent l'idée de la communication dans le monde judiciaire au seul ministère public. Je crois savoir qu'il y a notamment un certain nombre de hauts magistrats du siège qui demain sont invités dans un certain nombre de médias demain matin et qui auront une parole, et je trouve que c'est intéressant parce que c'est aussi le rôle des magistrats du siège, donc concrètement des juges, et pas seulement des procureurs, de porter à un moment une parole pédagogique, comme vous le dites, et je pense que c'est un travail que toute l'institution doit mener, effectivement.
Alors justement, vous allez nous dire si ce que dit François Bayrou est intéressant. L'ancien Premier ministre s'est exprimé aujourd'hui au sujet de l'exécution provisoire.
Je ne crois pas qu'il y ait dans la vie politique française de responsable qui ait affronté Nicolas Sarkozy face à face et avec autant de vigueur que j'ai été amené à le faire. Il faut protéger les juges, et Marc l'a dit. Je trouve qu'il faut respecter les décisions, mais qu'on a le droit de se poser des questions sur une disposition qui est l'exécution provisoire. Si on adopte la généralisation du principe de l'exécution provisoire, ça veut dire qu'il n'y a plus d'appel possible. Il y a un appel théorique, mais il n'y a pas d'appel réel.
Monsieur Stropkan, est-ce qu'on a des statistiques sur le pourcentage de condamnations pour association de malfaiteurs qui sont assorties de l'exécution provisoire ?
Alors, les statistiques en la matière, c'est pas que je veux pas vous les donner, c'est que honnêtement, c'est compliqué. Je suis pas sûr que comparaison soit raison. Maintenant, ce que je vous disais avant, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit par l'ancien Premier ministre, c'est que pour le coup, un homme politique est dans son rôle s'il souhaite à un moment modifier éventuellement la législation. Je rappelle juste que à date, pour le coup, si l'exécution provisoire existe dans ces décisions, c'est parce que le législateur a porté un certain nombre de textes où il a choisi de les mettre en vigueur. Et libre à lui, pour le coup, de modifier la législation. Et ça peut être tout à fait un débat sain et démocratique au sein du Parlement, un débat politique. Et là, pour le coup, les magistrats s'adapteront à cette nouvelle législation.
C'est un débat qu'on pourrait avoir. Mais Laurent Valdiguié, on a le sentiment que tant que ça ne concernait pas des personnalités politiques de premier plan, l'exécution provisoire, elle ne gênait personne finalement.
Je crois que le chiffre, c'est 85% des condamnations en première instance qui sont assorties d'une mesure d'exécution provisoire.
Il a dit qu'il ne voulait pas donner le chiffre.
La question était plus précise, c'était d'association de malfaiteurs.
C'est un sujet complexe.
Je crois que la justice civile, c'est 100% des décisions civiles qui sont tout de suite exécutées. En fait, l'exécution provisoire, c'est d'une immense banalité au quotidien. Enfin, il n'y a pas débat. C'est pour ça que cette voie-là manque pour expliquer les choses de façon. C'est toujours un peu plus complexe qu'on le résume à chaud. Et c'est vrai que dire aujourd'hui il faudrait supprimer l'exécution provisoire, quand on en discute avec des magistrats, en général, les bras leur en tombent. Tellement cette suppression n'aurait aujourd'hui aucun sens. Tous les jours en correctionnel, il y a des gens qui sont envoyés en prison. Et c'est vrai que c'est une entorse en première instance, et c'est vrai que c'est une entorse de papier à leur présomption d'innocence et au deuxième degré de juridiction.
Alors, c'est vrai que la neutralité de la justice, elle est beaucoup remise en cause. En ce moment, je voudrais qu'on écoute Éric Dupond-Moretti, l'ancien garde des Sceaux.
C'est pas parce qu'un magistrat a des opinions politiques qu'il est un pourri. Et le grand magistrat, c'est celui qui sait faire la part des choses. Et moi, j'affirme que la grande majorité des magistrats savent faire la part des choses. Et puis encore un mot, la mauvaise foi ne se présume pas. C'est pas parce que la décision vous convient pas qu'il faut dire que le juge est un pourri. Et c'est à la mode cette contestation de tout ce qui est état de droit.
Sauf que ce n'est pas l'avis de Marion Maréchal. Elle a une idée pour rendre la justice totalement neutre. Écoutez.
Je suis pour l'interdiction de la syndicalisation des magistrats.
L'interdiction ?
Oui, absolument. Je pense que quand on a la responsabilité de la vie d'individus, on doit faire apparaître une neutralité personnelle, politique, totale. Il y a une dérive, me semble-t-il, de ce qui est censé être simplement une défense professionnelle vers une politisation. Je pense qu'il faut interdire cela. Je pense que le statut aujourd'hui de la magistrature devrait induire, de par l'importance qu'elle a dans la société et l'attribut de ses fonctions, eh bien de ne pas pouvoir se syndiquer.
Sacha Stropkan, est-ce que l'appartenance syndicale des magistrats est susceptible d'influencer leur opinion ?
Alors, non. Évidemment que les magistrats ne sont pas...
Leur décision, je voulais dire.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est assez étonnant, je trouve, cette façon de voir les choses, puisque souvent, on reproche aux magistrats d'être hors sol, d'être dans leur tour d'ivoire, et en même temps, quand on leur reproche leur appartenance éventuellement syndicale ou politique, on leur reproche justement d'être trop empêtrés dans leurs opinions. Donc, évidemment que, pour le coup, les magistrats sont comme tout le monde, ils ont éventuellement des opinions. Tout l'art de ce métier, entre guillemets, c'est d'essayer de s'en départir au moment où on rend une décision et où on juge le droit. Alors évidemment, c'est pas une science exacte, hein, vous dire le contraire serait mentir, mais par contre, c'est effectivement ce qu'on apprend quand on est magistrat, c'est ne pas laisser interférer des opinions personnelles dans une décision de justice. Donc voilà, Marion Maréchal Le Pen a l'opinion qu'elle a, mais je suis pas sûr que le nœud du problème soit ici.
Et c'est vrai que ça revient assez régulièrement, Laurent Valdiguier.
Oui, mais là, alors je me fais le porte-parole du porte-parole. C'est le métier de magistrat de s'abstraire justement de ses convictions personnelles et de juger. D'abord, il n'est jamais tout seul, le magistrat. Ils sont trois, et puis ils savent que derrière eux, il y en aura trois autres. C'est de juger indépendamment de ses convictions. On ne peut pas laisser sous-entendre que la justice au quotidien se fait en fonction des convictions des uns et des autres. Sinon, ça serait une justice bananière. Ce qui fait l'honneur de notre magistrature, c'est qu'on a des magistrats d'une grande honnêteté, il faut le dire. Il y en a assez peu, pour le coup, les statistiques. Elles sont, je les ai pas en tête, mais il y a quand même assez peu.
Ça en fait une que vous n'avez pas.
Parce qu'ils sont menacés. Il y a des délits qui sont prévus, hein, de récusation, de suspicion légitime. S'il y a le moindre soupçon de collusion familiale ou autre, les magistrats, ils se déportent. Et s'ils se déportent pas, ils seront déportés. C'est pas la petite semaine. Hein,
tout à fait. Et pour rebondir sur ce que vous dites, je pense que faut aussi que tout à chacun puisse entendre que effectivement le système judiciaire est bien fait, que justement il est rempli de garde-fous pour éviter ces dérives éventuelles. Et que c'est justement pour éviter ces dérives et pour garantir, entre guillemets, l'état de droit, que est conçu ce système, avec notamment la collégialité, mais aussi le fait que, comme vous le disiez, on peut éventuellement récuser son juge si on considère qu'il y a une difficulté. Et donc, c'est d'autant plus pour ça, pour revenir au sujet initial, que, en vérité, c'est inacceptable. C'est déjà inacceptable de base, mais c'est inacceptable de s'en prendre soit physiquement, soit intellectuellement à travers des menaces à des magistrats, puisque le système tout entier est conçu pour éviter justement d'en arriver là, éviter à cette forme d'arbitraire et éviter en vérité qu'on en soit dans une relation quasi personnelle à son juge.
Bien sûr. Alors moi j'ai un petit regret et une petite question.
Allez-y.
Mon petit regret, c'est que ce procès libyen, ces 38 audiences, n'aient pas été filmées, que ça ne soit pas, c'était des pages d'histoire à chaque audience. On aurait dû filmer ça. D'ailleurs, Éric Dupond-Moretti avait un projet pour rendre public ces audiences en les filmant. Alors pas en les diffusant forcément en direct. Là, ma question, ça c'est mon regret. Ma question, c'est est-ce que vous, à titre personnel, est-ce qu'on peut imaginer que le procès en appel, parce qu'il y aura un procès en appel, il soit filmé?
Ce que peut vous dire le porte-parole du ministère de la Justice, c'est que il y a un cadre légal précis qui a été allégé, hein, effectivement, par l'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et que soit ça doit être un procès historique, auquel cas c'est effectivement la question qui peut se poser, soit que on soit dans le cadre d'une audience dite pédagogique, c'est-à-dire que soit autorisé, mais la condition pour ça, c'est que les parties, notamment, ne soient pas reconnaissables. Je suis pas sûr que là, en l'espèce, on remplisse les conditions. Donc, je suis pas sûr que le cadre légal le permettent. Ensuite, il y a une question d'opportunité en la matière, mais effectivement, pourquoi pas. En tout cas, c'est une question que vous posez et je vous la laisse. Mais effectivement, les audiences filmées sont aujourd'hui un peu allégées, mais ça reste un cadre très restrictif parce que tout simplement, je suppose que personne ne souhaite qu'on arrive dans une espèce de justice à l'américaine où depuis son salon, on puisse suivre en direct une procédure judiciaire.
Merci beaucoup, Monsieur Stropkin, d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau.
Merci à vous.